Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Lord Sinclair, Brett Sinclair,
amicalement vôtre.
Et pourquoi?
Parce que c'est pas amicalement vôtre en ce moment en politique.
Non.
Quelqu'un est mort?
Non.
Des images.
Bonjour Jérôme Béglé, bonjour Olivier Dartigolle, bonjour Georges Fedec, bonjour.
Mettez-nous sur la piste.
Comment?
Mettez-nous sur la piste.
Bonjour Geoffroy Lejeune. Nous sommes le 3 septembre aujourd'hui 2022.
Octobre.
3 octobre 2022.
Un an après la mort de Bernard Tapie, je crois.
On en parlera tout à l'heure, on aura une pensée pour Bernard Tapie, mais c'est pas pour ça. Il y a 50 ans, jour pour jour, c'était la première diffusion d'Amicalement Vôtre. Le 3 octobre 1972, et c'est vrai que ça a pu marquer.
Ça va rajeunir l'audience.
Lord Brett Sinclair et Danny Wilde, je ne sais pas qui est Lord Brett Sinclair sur ce plateau. J'ai l'impression qu'il y a plus de Danny Wilde souvent. Mais bon, peu importe. Mauvaise journée pour l'exécutif à l'Élysée. Mauvaise journée judiciaire,
ah oui.
S'entend M. Georges Fedec. Oui. Avec le secrétaire général de l'Élysée. Je ne suis pas sûr que tout le monde connaisse le secrétaire général de l'Élysée. Je pense que c'est, nous le connaissons. Je ne suis pas sûr que le grand public connaisse et son nom et son visage.
Il est discret.
Oui, mais c'est le principe, Alexis Kohler. Il a été mis en examen. C'est quand même le secrétaire général de l'Élysée. C'est quasiment une des personnes les plus importantes du pays. Il est mis en examen en septembre à Paris pour prise illégale d'intérêt dans le cadre de l'information judiciaire visant ses liens familiaux et professionnels avec l'armateur MSC. Et c'est le bras droit d'Emmanuel Macron. C'est un peu compliqué, vous nous expliquerez tout à l'heure. Les tenants et les aboutissements, comme on dit. Et parallèlement, Éric Dupond-Moretti, lui, c'est donc le garde des Sceaux, c'est la première fois jamais arrivé, il est renvoyé, visiblement, devant la Cour de justice de la République. Explication de Noémie Schulz et on en parle ensemble.
Éric Dupond-Moretti l'avait pratiquement annoncé lui-même la semaine dernière. Il est renvoyé devant la Cour de justice de la République. Que lui reproche-t-on précisément? Eh bien d'avoir profité de sa nomination comme ministre de la Justice pour régler ses comptes avec des magistrats auxquels il avait eu affaire quand il était encore avocat. Il a toujours contesté cette version des faits. Éric Dupond-Moretti explique avoir suivi les conseils de son administration. Ses avocats ont dénoncé une décision purement politique et surtout sans valeur. Ils ont en effet déposé un pourvoi en cassation qui suspend le renvoi du ministre devant la Cour de justice de la République. C'est la Cour de cassation qui devra trancher cette question. Cela va prendre plusieurs mois. En attendant, le garde des Sceaux n'entend pas démissionner. Il a toujours assuré tenir sa légitimité du président de la République et de la première ministre. Hasard du calendrier, on a appris quelques heures plus tard la mise en examen d'Alexis Kohler, là encore pour prise illégale d'intérêt. Mais ça n'est pas la Cour de justice de la République qui a décidé de cette mise en examen, mais bien des juges d'instruction. Le secrétaire général de l'Élysée est soupçonné de ne pas avoir fait état de ses liens familiaux avec le principal actionnaire de l'armateur MSC. Et ce, alors qu'il a été amené dans le passé à prendre position au nom de l'État dans des dossiers concernant MSC. Dans un communiqué, Alexis Kohler conteste avec force avoir commis tout délit.
On commence par quoi? Dupond-Moretti ou Alexis Kohler?
Pour Dupond-Moretti, c'est une très mauvaise nouvelle pour l'institution judiciaire elle-même. L'image de l'institution judiciaire.
Mais c'est un règlement de compte.
Faut bien comprendre.
C'est un règlement de compte des magistrats?
Non, je crois pas. Peut-être.
Non. Peut-être.
Ouais, écoutez,
mais vous êtes tous pareils. Non. Ancien magistrat, vous défendez les magistrats comme Philippe Bilger chez vous.
Non. Il s'est servi de son.
Bon.
Non, c'est pas un règlement de compte.
Non, mais.
On a souvent attaqué Éric Dupond-Moretti, mais sur ce dossier.
Qui est des arrière-pensées. Bon. La difficulté, c'est que. Qui est garant dans notre pays de l'indépendance de la justice? Président de la République, qui est garant. N'est-ce pas ? Or là, on a un système de défense d'Éric Dupond-Moretti qui est d'attaquer l'institution judiciaire, ces juges-là en tout cas, de considérer qu'il est victime d'un règlement de compte. Il ne le fait pas librement. Il a forcément un aval au plus haut niveau. Mmh. Alors c'est un problème institutionnel. Et puis, j'ajoute, s'il est jugé par la Cour de justice de la République, vous savez par qui est composée la Cour de justice de la République ? Elle est composée par des magistrats qui sont sous son autorité de tutelle, et par des parlementaires qui sont sous son autorité politique. Donc ça pose un problème. D'ailleurs, c'est inédit. Ça ne s'est jamais produit. On peut peut-être citer le cas de Laurent Fabius dans l'affaire du sang contaminé.
Mais sur le fond, c'est pas à nous.
Pascal, il y a une prise illégale d'intérêt.
Pascal Pro.
Les juges disent qu'il y a une prise illégale d'intérêt car il a demandé des sanctions. Enfin, il a poursuivi la procédure qu'avait entamée Madame Belloubet contre les magistrats.
Mais cela avait eu l'avait mal
la poursuivi quand il était avocat.
Il l'a poursuivi ou c'est il a initié?
C'est pas lui qui a initié, mais
il a poursuivi, mais sur le fond, je
parle sur plan institutionnel. Et puis quand il sera à l'audience, qui va s'occuper de la place Vendôme et le ministère de la Justice?
Donc vous pensez qu'il aurait dû démissionner, c'est ce que vous voulez dire?
Moi, je demande pas la démission. D'ailleurs, je remarque qu'il n'y a aucun syndicat, ni l'opposition qui demande.
Quand bien même il n'est pas à la mort.
C'est un peu compliqué pour ceux qui nous écoutent peut-être.
Est-ce qu'on peut simplifier en disant qu'il y a un lourd soupçon qui pèse sur le garde des Sceaux qui aurait, mais tout au conditionnel, c'est à la justice de l'établir, profiter de son portefeuille ministériel, de son installation Place Vendôme, pour régler des contentieux qui dataient de son exercice professionnel comme avocat.
Nous sommes
d'accord. Sur à la fois un dossier monégasque et sur un dossier
du PNF,
associé à un procès concernant Nicolas Sarkozy et d'autres.
Oui, bah oui, tu peux.
Et donc, on verra avec la justice, avec cette cour de la justice, si les faits sont établis ou pas.
Oui,
Il y a quand même un petit faisceau qui va vers ça, quand même.
Bon. J'ai le droit de casser l'ambiance.
Oui.
Je vais citer la phrase du plus célèbre des gardes des Sceaux, François Mitterrand, qu'il a prononcée avant d'être élu président de la République. Méfiez-vous des juges, ils ont tué la monarchie, ils tueront la République. On en est là aujourd'hui. Qu'on ne me fasse pas croire que les juges n'ont pas maintenant un rôle politique, ne sont pas arrogés un rôle politique qui est normalement très loin de leur fonction. Le pouvoir judiciaire rentre partout, il rentre à l'Assemblée nationale au mépris de la séparation des pouvoirs et leur rêve absolu de faire tomber des ministres, des premiers ministres.
C'est absolument plus un contre-pouvoir.
C'est une attaque,
Jérôme,
si vous voulez.
C'est une attaque.
Non mais laissez terminer.
J'ai quand même le droit de dire ce que je pense.
Non mais c'est gravissime ce que vous dites.
Ce que dit François Mitterrand, commence à garder ça, c'est pas mal non plus.
Vous portez une attaque
écoutez,
grave.
Vous les protégez, j'ai le droit d'être un peu
gentil. Georges Fenech, demandez à votre ami François Fillon ce qu'il en pense.
Oui. Demander à...
Là, oui.
C'est bien.
Mais ce n'est pas parce que...
Là, oui. C'est la faute des juges. C'est la faute des journalistes. Voilà.
Est-ce que vous avez...
Bon. Non, mais le mur des cons, ça a existé, Georges.
Mais je ne dis pas que tout va bien.
Donc voilà,
le mur des cons, ça a existé. Qui, à l'instant de la nomination de M. Éric Dupond-Moretti comme garde des Sceaux, dit que c'est une provocation. Vous trouvez ça normal?
Déclaration de guerre.
Déclaration de guerre, vous trouvez ça normal? Maintenant, pour nommer un garde des Sceaux, il faudrait qu'il soit avalisé par une espèce de syndicat.
On a le droit d'être en défiance. On a le droit un poil. On est en défiance surtout. On a le droit d'être en défiance sur la presse, à juste titre. On a le droit d'être en défiance, pourquoi pas, sur les politiques et sur les juges. Les juges, ce sont des hommes, bien évidemment, qui sont parfois gouvernés par des ambitions, pourquoi pas, ou même des sentiments qui peuvent être personnels. Ça peut exister. Ce qu'on a dit sur le juge Tournaire, je ne l'ai pas inventé. Ça s'entend.
Dans ce débat, mais ce que je vous dis, ce qui me paraît le plus grave dans tout cela.
Oui, arrêtez, oui, c'est grave
ce
qui est grave.
Écoutez, moi, je ne peux pas m'exprimer parce que.
Non, mais parce que vous prenez un ton pour dire c'est grave comme si on mettait en cause la justice. Oui, on a le droit d'être un peu en défiance.
Badin, si vous voulez, je peux prendre un ton badin pour parler de tout ça. Simplement, on est à un moment où la justice se cherche. Il y a des réformes très importantes. Il y a eu les états généraux de la justice. Et malheureusement, ce que je crains, c'est qu'on ait un garde des Sceaux qui soit fragilisé, affaibli pour porter... Vous voyez, je suis désolé de prendre ce ton un peu solennel, mais c'est une réalité, que ça vous plaise ou pas.
C'est pas ça qui m'intéresse.
Qu'il y ait un règlement de compte ou pas.
Ça, c'est le résultat. Mais
le résultat, il est là.
Bon. D'accord, on est d'accord sur le résultat. Ouais. Mais vous trouvez... La fameuse procédure pour laquelle on veut le traduire devant la Haute Cour de Justice, la Cour de Justice de la République, pardon, elle a été initiée par son prédécesseur, par Mme Belloubet. Elle a été avalisée par son administration. Je trouve quand même un peu incroyable qu'on lui fasse porter 100% de ce tort alors que c'est une vieille
affaire. Vous n'aimez pas qu'un puissant s'est fait prendre la main dans le sac.
Olivier,
mais si, vous demandez une justice forte dans certains sujets. Mais là,
dépassionnée, dépolitisée.
Là, on dit que le juge est donc orienté.
En tout cas, tous ces magistrats qui ont fait l'objet de procédures disciplinaires Cher ami, le rappeler, ont tous été relaxés, oui, relaxés par les instances, bon, du Conseil supérieur.
Oui, madame et
les juges qui jugent. Mais... pardonnez-moi, des juges qui jugent, qui jugent des juges.
Madame Elouette,
je vois que vous avez une confiance aveugle dans la justice et aux juges.
Les juges, moi, qui jugent les juges, pardon.
C'est grave. Cher ami, je cite toujours une phrase, non pas de François Mitterrand, d'Olivier Guichard, ministre de la Justice sous Giscard, qui est sorti de sa mandature. Je ne sais pas si c'est une mandature d'ailleurs,
de son
ministère, qui a dit « J'ai appris une chose de mon ministère, j'espère ne jamais avoir affaire à la justice. Voilà. »
Ça veut dire la même chose. Hein.
Ça veut dire la même chose. Voilà. Mais c'est normal d'ailleurs, parce que tu le vois bien. Enfin, tu vois bien qu'en première instance, il y a des gens qui sont Monsieur Tronc, défendu par Monsieur Dupond-Moretti. En première instance, il est relaxé. À l'heure à laquelle je parle, je crois qu'il est encore en prison. Excusez-moi, c'est parfois pile ou face.
Ça s'appelle le double degré de juridiction.
Ça s'appelle pile ou face.
On a le droit à une deuxième chance là.
Je parle même pas de l'affaire Tapie
ou les Balkany
où en première instance ils étaient tous relaxés et en deuxième ils étaient tous condamnés.
C'est ce qu'on va faire.
Permettez-moi
de jeter la justice à la mer.
Je ne dis pas ça.
Vous n'aurez plus de juge. Vous n'aurez plus de justice. On la rendra sur les plateaux.
Je ne dis évidemment pas ça.
Mais vous rendez compte à quel point vous jetez le discrédit sur l'institution judiciaire. En fait, c'est un des piliers de notre démocratie.
Mais justement, c'est pour ça qu'on la veut intègre, financée avec des gens bien formés et qui ne
le mur des cons, pour moi,
la justice a condamné le mur.
Ah oui, vous parlez. Oui. Le mur des cons, pour moi, a été un marqueur.
Absolument.
Mais bon, il y a évidemment des juges. Je connais plein d'avocats qui t'expliquent qu'il y a des juges formidables. Tous les avocats, en même temps que je connaisse, disent qu'une chose, les juges n'instruisent qu'à charge. Tous, il n'y a pas un avocat qui me dit le contraire.
Et un syndicat de juges, ça ne vous choque
pas. Il n'y a pas un avocat depuis 25 ans qui me dit le contraire.
Que les juges soient syndiqués, ça ne vous choque pas.
Alors que tu dois instruire à charge.
Et que les juges soient syndiqués, ça ne vous choque pas.
Mais peu importe, on ne va pas en parler
pendant... Je pense que la politique n'a rien à faire dans les prétoires.
Oui.
Ah, ben voilà. Moi, je vous dis qu'elle y rentre par tous les bouts.
Allez, ça, c'est un vrai sujet.
Et Alexis Colère. Parce que
je voulais défendre.
On a fait beaucoup.
Non, pas vous.
Mais si, non, mais alors justement, parce que mon point de vue, si je peux me permettre, est très intéressant parce que j'ai pensé exactement comme vous, Jérôme. J'ai écrit ça des dizaines de milliers de fois et en fait, j'ai compris quelque chose. Argument que vous n'avez pas utilisé, genre, c'est les magistrats, on les attaque à juste titre. Moi, je suis pour qu'on les attaque, etc. Mais on oublie qu'ils disent le droit aussi. Donc, je pense qu'il y a quelque chose qu'on ne dit jamais, c'est qu'il y a un problème avec le droit, très souvent. Des jugements qui nous paraissent.
Sanction, le juge Burgot, il est encore
ça, c'est
en
vrai.
Place.
Ça, c'est vrai. Non, mais ça, c'est autre
il
chose.
Il est dans votre.
Et ensuite,
le juge Burgot qui a fait l'affaire. Bon, il est toujours en place.
Vous parlez à quelqu'un qui milite depuis toujours pour la responsabilité des juges.
Eh ben, il est où? Il est dans votre institution.
Sur Dupond-Moretti, ce qui est hyper intéressant.
Alexis Colère.
Vous avez dit, non, juste sur Dupond-Moretti pour terminer.
Alexis Colère.
Vous voulez pas,
il est en place, il n'est plus juge, mais il est encore dans l'institution.
Vous dites tous les avocats, sont d'accord pour dire que les juges instruisent à charge. Moi aussi, je suis d'accord avec ça. Mais en fait, Dupond-Moretti, ce qui est hyper intéressant, c'est qu'il est avocat lui aussi. Rappelez-vous juste au moment où il a été nommé ministre de la Justice, à ce moment-là, et je faisais partie, comme vous, des gens qui disaient « Enfin, des grosses claques dans la figure des magistrats », avant de réaliser ce que je viens de dire à l'instant. Ouais, et en fait, malheureusement pour lui, on se disait « Il est avocat, il va être plutôt du côté des délinquants, façon Victor Hugo, un peu grandiloquent, etc. » Et par contre, pour les magistrats, c'est la fin de la récré. Et en réalité, il a été faible, il a été Victor Hugo avec les délinquants, et il a été faible avec les magistrats. Son premier discours, c'est pour dire « Je ne viens pas faire la guerre avec vous », et il n'a rien fait.
Vous voulez qu'il dise qu'il allait faire la guerre ?
Alexis Colère.
C'est pour ça.
Alexis Colère, conséquence. Parce que, alors, c'est très compliqué. Noémie Schultz, franchement, c'est très, très compliqué. L'affaire est née après la publication en 2008 de plusieurs articles sur un site, en l'occurrence Mediapart, sur un éventuel conflit d'intérêts entre ses postes dans la fonction publique et ses liens avec l'armateur italo-suisse méditerranéen Shipping Company, fondé et dirigé par les cousins de sa mère et la famille Aponte. Le parquet national financier avait ouvert une enquête préliminaire qu'il avait classée sans suite. En 2019, mais l'association anticorruption Anticor a obtenu la relance des investigations en 2020 grâce à une plainte avec constitution de partie civile qui permet la plupart du temps la désignation d'un juge d'instruction. En fait, c'est Anticor qui permet qu'il soit mis en examen.
Anticor aussi,
voilà.
Qui choisit ses victimes.
Bon, en tout cas, mauvaise journée pour le judiciaire, mais...
Pour le judiciaire ?
Pour le judiciaire, pour l'Élysée.
Pour le gouvernement.
Mauvaise journée judiciaire pour l'Élysée. Mais...
Pour l'exécutif, oui.
Emmanuel Macron a trouvé la parade.
Oui.
Le col roulé.
Le col roulé.
Intervention.
Le col roulé. Parce que, alors, c'est ça qui est formidable. On va écouter Emmanuel Macron, mais en fait, tout le monde se fiche de ce qu'il dit.
Il n'a rien dit, de toute façon.
Ah si, il a dit quelque chose. Il a dit, vous pouvez aller sur...
Il a dit le grand débat, c'est très bien. La Convention citoyenne sur le climat, c'était bien. Et on va faire le Conseil national de la refondation.
Oui,
vous avez un site internet, vous pouvez cliquer.
Voilà, il a fait un site. Alors, d'habitude, ils nous font un numéro vert.
Non, là, c'est
et là, le président de la République, c'est un peu plus chic. Il a dit, vous avez un numéro, vous avez un sur internet, conseil-refondation.fr. Je pensais que le président allait dire... Appelez le numéro vert. Vous savez, dès qu'il y a un problème avec ce gouvernement, numéro vert.
Pour proposer des solutions. Est-ce que vous avez fait, est-ce que vous l'avez fait aujourd'hui sur un sujet pour poser une solution?
Mais écoutez-le, on m'a eu une fois au grand débat, vous ne croyez pas que je vais aller cette fois-ci? J'attends encore les résultats du grand débat.
C'est la voix
des cahiers de doléances.
Vous étiez allé au grand débat?
J'étais allé, j'écoutais. Mais vous avez vu une synthèse du grand débat, vous?
Sur la table depuis 10 ans, on va pas recommencer à perdre notre temps.
Donc le président de la République, alors c'est intéressant l'extrait, je vais vous montrer, parce qu'en fait on ne l'écoute pas, on regarde que son pull. S'il a un pull vert le 3 octobre, il va être en passe-montagne le 25
décembre. Et de nouveau un arbitrage.
Non mais je vous dis, parce que là, en grand danger, comme disait Aimé
Jacquet. C'est de nouveau un arbitrage gagné par Bruno Le Maire.
Parce que là, il est en col roulé. Ils nous prennent vraiment pour des blin-blin. C'est ça qui est formidable. Je trouve que ces gens sont formidables. Ils viennent tous en col roulé. On est un peu nunuche, en fait. Emmanuel Macron.
Ce que je vous propose aujourd'hui, c'est de pouvoir changer les choses ensemble. J'ai besoin que vous puissiez aussi prendre part au travail du Conseil national de la Refondation. Et donc, avec vous qui portez des idées de changement, qui imaginez des projets pour nos territoires, qui avez des idées très concrètes, de pouvoir nous en faire part en les mettant en commun sur conseil-refondation.fr. Choisissez les sujets qui vous tiennent à cœur, l'écologie, l'école, la santé, la démographie, le vieillissement, le travail, et participez-y pour contribuer à ce travail, justement, de conception, pour apporter vos contributions plus personnelles, plus approfondies, pour lever aussi de nouvelles questions, mais nous aider à bâtir, dans le cadre de ce Conseil national de la Refondation, thématique par thématique, les projets, les travaux, nous inspirer d'expériences locales, et nous faire partager les choses pour que nous puissions avancer sur ces grands sujets.
Ah oui, ben.
On dirait des vidéos.
Il y a un vrai problème de communication pour le président de la République, si vous me permettez. C'est très étrange, quand même.
On dirait rappel au peuple.
Non.
Mais
dans la forme.
Les deux ans, t'as servi à quoi?
Enfin, arrête. Président de la République qui dit taper sur conseil trade-union.refondation.fr.
C'est des élections, normalement. En fait.
Enfin, je veux dire, il peut vendre aussi des enfin, c'est quand même très étrange. Enfin, t'attends quand même, me semble-t-il. Non?
Peut-être que vont émerger des idées absolument lumineuses.
Mais est-ce que vous croyez à ça? Les yeux dans les yeux. Est-ce que vous croyez à ça? Les yeux dans les yeux, est-ce que vous y croyez?
Oui.
Non.
Mais plus personne n'y croit.
Bien sûr, je n'y crois pas. Bien sûr.
Mais personne. Mais le problème, c'est que personne n'y croit plus. C'est bien le souci. Personne ne croit plus en rien et non plus à ce CNR non plus.
Sur les retraites, les personnes, j'ai encore eu des chances. Sur les retraites, les personnes posent deux questions. Je vais pouvoir partir à quel âge et je vais avoir combien?
Je vais vous dire aujourd'hui, par exemple, vous voulez un exemple? Pendant la campagne électorale, le président de la République s'était engagé à changer les droits de succession, de passer de 100 000 à 150 000. Aurore Berger l'a dit, a proposé un amendement. Ils l'ont viré immédiatement. Immédiatement. Gabriel Attal l'a retoqué. Il lui a dit, tout ce qui s'est dit. Moi, je ne crois plus.
Ils ont 5 ans pour le faire.
Donc comme ça, je ne peux pas être déçu. Puisqu'ils t'ont expliqué pendant la campagne qu'ils allaient remonter les droits de succession à 150 000. Là, il y a le budget qui est voté. Et évidemment, ça restera à 100 000.
Bon. Ils ont 5 ans pour le faire.
Il faudrait
vous allez pouvoir travailler un peu plus longtemps.
Il faudrait les supprimer, ces droits de succession.
D'ailleurs, faudrait effectivement
les supprimer.
Donc tout n'est que de la. Voilà, on parle, et puis c'est toujours pareil.
Deux ans de plus. Vous allez devoir faire 2 ans de plus.
Quel est le rapport les droits de succession?
On parle des engagements. Seront-ils. Là, 2 ans de plus, vous allez devoir payer.
Mais nous, on a la chance de faire un métier plaisir et passion. Pardonnez-moi, nous, on est des super privilégiés.
Oui.
Donc, pensez aux gens qui, effectivement, à 56, 57 ans, sont cuits physiquement. Et c'est ces gens-là, il faut les aider. Oui. Je veux dire, nous, on a la chance d'être là, derrière notre bureau, en train de parler. Et on est payé pour ça.
Un salarié sur deux qui part à la retraite n'est déjà plus en activité.
Mais franchement, c'est une chance. Mais je veux dire, vous le savez bien. Bon. Le col roulé, pas de...
On a tout dit là sur le col roulé quand même.
Non, mais vu qu'Éric Bompard, le fabricant français de col roulé, fait de la pub maintenant pour... Il se dit, tiens, il y a quelques chiffres d'affaires à récupérer, donc tout le monde se précipite.
Le col roulé.
Les fabricants.
Bon, là, c'était un petit col roulé.
Vous n'avez pas votre col roulé?
Je ne sais pas, il faut que je regarde, mais demain je vais arriver avec un passe-montagne.
Un passe-montagne, carrément.
Il fait trop doux,
Vous savez que. Alors, Adrien Quatennens, lui, a été mis, non pas en examen, mais Céline Quatennens, l'épouse du député LFI, donc déposé des mains courantes, elle a déposé plainte cette fois-ci. Donc là, il y a quand même, après tout ce qui s'est passé, Si elle dépose plainte, c'est qu'elle a ses raisons. Je ne sais pas lesquelles, mais
manifestement... Ou alors elle est poussée par son avocat.
Ce qui est sûr, ça, c'est qu'elle risque de réussir son divorce, elle, pour le coup. Elle risque de réussir son divorce. C'est quand même un divorce qui ne se passe pas très bien. Et quand elle précise, la première fois qu'elle dépose une main courante, donc manifestement, il y a plus d'un an qu'elle ne veut pas que ça se sache et que c'est juste au cas où, bon, bah, elle a changé d'avis. Donc il faut imaginer que la polémique a eu un rôle quand même. Ça questionne sur l'utilité de cette polémique,
plainte,
sur les conséquences.
Plainte ou pas plainte, le parquet peut poursuivre d'office. D'ailleurs, Katniss a été entendu. Il a déjà été entendu. Et qu'elle dépose plainte ou pas, le parquet peut parfaitement poursuivre sans attendre la plainte. Mais ça conforte quand même une volonté de dire ce qui s'est passé.
Personne n'aimerait vivre quand même ce qu'il vit.
Non, non, c'est terrible. C'est terrible.
Là, on sait donc qu'elle est.
Non, il y a un côté voyeuriste.
Il y a quelque chose qui. Il y a un climat terrible.
Oui, non, mais je suis d'accord avec vous, mais. T'es pas obligé de frapper une femme.
Non, je suis d'accord, mais
c'est sûr.
C'est pas sur
si vous me permettez.
C'est pas sur ça que j'interviens.
Ouais, mais que le misérable petit tas de secrets, comme on dit, soit.
Non, c'est pas sur ça que j'interviens.
Au début, au début que cette affaire avait éclaté, vous aviez dit, moi, je ne veux pas accabler.
Oui, et eh ben je
non, pas non, vous avez changé là.
Non, je veux pas accabler.
Non mais Pascal, j'ai la même position. Pascal, j'ai la même position.
Histoire de couple.
Non Pascal, j'ai la même position que vous sur les violences.
Je n'ai pas accablé monsieur.
J'ai la même position que vous sur les violences et heureusement qu'il y a dépôt de plainte. Mais on n'est pas obligé d'être associé tous les jours.
Et ben on n'en parle plus. Vous avez raison. On va parler de Manche les morts. Ça vous apprendra.
Ça c'est
dans une seconde, puisque Madame Obono
progresse.
Madame Obono. On va en parler juste après la pause. Bonjour à tous et à tous, dit-elle, sauf aux gens qui instrumentalisent la lutte des femmes en Iran contre l'oppression pour insulter et disqualifier la lutte des femmes en France contre l'oppression. Ceux-là, mangez vos morts. Voilà le niveau aujourd'hui du débat politique en France avec la France insoumise. À tout de suite. La mode est-elle au col roulé? Yann Effelé, journaliste de CNews, va répondre par l'image à cette question.
Les États-Unis se disent révoltés par la répression des manifestants en Iran. De violents affrontements ont éclaté entre étudiants et forces de sécurité dans une grande université de Téhéran, plus de deux semaines après le début des manifestations. Au moins 90 personnes sont mortes du fait de la répression de ce mouvement. La Russie place une journaliste dissidente sur la liste des personnes recherchées. Marina Ovsyannikova a été inculpée en août pour diffusion de fausses informations sur l'armée russe et assignée à résidence. Un endroit qu'elle a donc quitté. C'est elle qui avait interrompu le journal du soir en agitant en direct une pancarte, appelant les Russes à ne pas croire la propagande. Fabien Roussel se lance dans un tour de France sur le travail. Le patron des communistes était chez le verrier Arc dans le Pas-de-Calais où une partie des salariés sera au chômage partiel cet hiver à cause de la hausse des prix de l'énergie. Il s'est dit très inquiet du risque d'une récession brutale et d'une nouvelle vague de désindustrialisation.
Alors vous le savez peut-être, mais « mange tes morts » est une insulte utilisée dans les langues manouches, yéniche et gitane. L'expression « mange tes morts » a été popularisée en France lors de la sortie du film éponyme en 2014. C'est une insulte, une expression forte qui n'a pas d'équivalent dans le monde gadjo. C'est dire à un gitan qu'il n'est pas digne d'être gitan, expliquait le réalisateur du film arrière-petit-fils de Yéniche. Je vous parle de ça parce que Danielle Obono a donc tweeté et elle a dit mangez vos morts, précisément. Bonjour à tous, on l'a dit tout à l'heure, sauf aux gens qui instrumentalisent la lutte des femmes en Iran contre l'oppression pour insulter et disqualifier la lutte des femmes en France contre l'oppression. Cela, mangez vos morts. Donc évidemment, ça fait réagir, notamment Marine Le Pen qui... La France insoumise, jusqu'où vont-ils descendre, a-t-elle interrogé. Quelle honte sur le fond et la forme, a dit Rachid Temal. C'est vrai qu'on est quand même surpris de la vulgarité, ou peut-être de la provocation, des expressions qu'on n'imaginait pas, qu'on n'entendait pas en tout cas.
Non, moi j'ai pas le souvenir. Sur le sujet, les femmes iraniennes, qui elles font preuve de beaucoup de courage et de tenue et de force.
On est très très loin des belles formules d'Edgar Faure ou d'autres personnalités politiques qui avaient le sens de l'humour, l'intelligence de la répartie. Là, on a touché le fond, quoi, vraiment.
Et ce qui est drôle, c'est la toute-puissance de la France insoumise qui se permet des choses en sachant que finalement, le monde médiatique va peu bouger. C'est vrai pour Sandrine Rousseau, c'est vrai pour Mathilde Panot, c'est vrai pour Danielle Obono.
Voire va les relayer.
Bah, on les relaye forcément.
Oui, mais ça va être un sujet, ça, pour nous. Oui.
Est-ce qu'il n'y a pas une bascule quand même des gens qui, il y a quelque temps encore, auraient hésité à intervenir et à réagir, qui le font aujourd'hui un peu plus?
On leur donne une caisse de résonance.
Une députée qui dit mange tes morts, mangez vos morts, ça se commente quand même. Enfin, ça veut dire quelque
chose. Oui, ça se commente.
Mais
c'est pas une non-information. Moi, ce qui me sidère, pardon, Jérôme, mais c'est la décontraction absolue avec laquelle il manie surtout le deux poids deux mesures. C'est-à-dire qu'en fait, elle, elle peut dire mangez vos morts et après, elle va plaider pour se défendre le droit à la boutade. Tout ça, c'est très bon esprit, etc. Moi, je peux témoigner, j'étais il y a 15 jours au tribunal face à elle parce qu'elle avait mal pris une fiction, je dis bien une fiction dans Valeurs Actuelles où on
l'a. Elle avait des raisons peut-être de mal le prendre d'ailleurs.
Certes, mais quand nous on dit, écoutez, c'est une fiction, c'est quelque chose pour l'été, etc., c'est léger, elle ne comprend pas du tout l'argument tout à coup.
Et vous faites référence évidemment à un papier qui avait
été diffusé dans, Daniel Boudon était
dans Valeurs Actuelles.
C'est pas une couve, mais oui.
C'était pas la une, mais c'était pendant un feuilleton à la.
Oui, mais je veux dire, au tribunal, on s'est affronté là-dessus. Et elle dit non, c'est terrible, je l'ai pas mal pris, je l'ai très mal pris. Oui. Eux, ils disent que c'est une fiction, mais moi, je l'ai pris personnellement pour de vrai, etc. Ma mère, mon petit neveu a été très triste. Je suis désolé. En fait, là, c'est une insulte objective. Et par ailleurs, moi, je suis d'accord avec Olivier. Elle dit ça parce qu'elle n'a pas supporté les critiques contre Sandrine Rousseau hier, qui étaient absolument fondées
et légitimes.
Alors, écoutez
Sandrine Rousseau, parce que Sandrine Rousseau, c'est fort bien, il y a qu'elle qui a été huée. Madame Rossignol n'a pas été huée.
Pour des bonnes
contrairement
raisons.
À ce que dit Madame Rousseau. Elle a été huée.
Et les images sont très parlantes.
Mais bien sûr, mais c'est très intéressant sa défense, parce que vous allez l'écouter après France Inter, elle dit c'est marrant quand une femme parle, elle est huée. Non, c'est elle qui est huée. C'est pas une femme.
Elle est huée et par des femmes.
Et par des femmes. Alors je vous propose d'écouter d'abord, de voir, d'écouter aussi cette séquence. Je trouve qu'il y a quelque chose de terrible chez cette femme parce qu'elle ne doute pas, elle a un caractère manifestement très fort, hein, très fort.
Très construit.
Elle, très construit, je ne sais pas, mais en tout cas très fort, très. Et c'est une femme, tu vois bien que le doute n'entre pas dans son cerveau. Et écoutez ce qu'elle disait ce matin sur France Inter.
Ce qui s'est passé hier, c'est que les trois femmes de gauche qui ont parlé, c'est-à-dire Manon Aubry, mais aussi Laurence Rossignol et moi-même, avons été sifflées. Et je me demande, je me pose cette question, pourquoi dans une manifestation qui est en soutien des femmes, les femmes sont-elles sifflées? Je me pose cette question et je
Olivier
me dis
Faure
que...
Olivier Faure l'aurait été aussi, selon l'AFP. Hein.
Il y a eu quelques sifflets pour Olivier Faure et c'est extrêmement faible par rapport à ce qui s'est passé sur Manon Aubry, Laurence Rossignol et moi. Et voilà, je me demande quelles étaient les intentions des manifestants de siffler ces femmes. Et j'ai toujours l'impression que le féminisme est bien quand il est loin et que finalement, quand il est France, eh bien, il est moins acceptable.
Alors Laurence Rossignol a répondu avec un certain courage d'ailleurs, parce qu'elle fait partie de la NUPES, a priori, Laurence Rossignol, même si elle n'est pas députée.
Elle est ancienne ministre.
Mais elle est sénatrice.
Mais elle est sénatrice, mais elle fait partie...
Mais elle n'a pas été élue dans une configuration
de NUPES. Non, mais bon, elle est au PS.
Oui, mais elle fait partie des PS qui contestent la NUPES.
Bon, c'est un mensonge.
Quand même courageuse.
C'est un mensonge, dit-elle. Faire croire que toutes les femmes auraient été sifflées est une manipulation, voire vidéo dans mon tweet précédent, que Sandrine Rousseau assume ses positions et ne cherche pas à nous embarquer toutes sur son bateau. Sandrine Rousseau a répondu, il y a eu des sifflets. Sifflets et des applaudissements pour tout le monde. Les sifflets étaient plus importants pour Manon Aubry et moi, moins pour Laurence Rossignol et Olivier Faure, mais tout le monde l'a été. C'est pas vrai. Écoutez d'ailleurs quelques personnes qui ont été interrogées dans cette manifestation.
On est des Iraniens, on fait manifestation pour l'Iran, c'est pas pour cette dame-là.
Lorsqu'il s'était agi de dénoncer les poupées sans visage qui étaient vendues dans des boutiques fondamentalistes, Madame Rousseau avait prétendu qu'il s'agissait elle avait balayé d'un revers de main ce grave problème.
Elle a été huée parce que généralement elle défend toujours les femmes ici qui portent le voile, celles qui font du prosélytisme islamique. Elle défend les hommes aussi qui sont islamistes au sein de son parti et dans d'autres partis de la gauche. Et nous n'en voulons plus.
C'est une islamo gauchiste, elle est pour le port du voile. Elle n'est pas là pour défendre les femmes iraniennes. Elle est là pour sa cause à elle, uniquement. C'est une vendue, c'est tout. Elle n'a rien à faire là.
Bon, ils ont bien compris qui était Mme Rousseau, les gens qui étaient interrogés.
Mais quand ils ont compris qu'il y avait quand même un paradoxe à défendre des femmes iraniennes qui se font tuer, massacrer pour enlever le voile, et en même temps soutenir des femmes françaises qui veulent porter le voile. C'est le même voile dont on parle. Hein.
Absolument.
C'est le voile. Donc on voit bien qu'il y a...
qui signifie la même chose.
Qu'il y a un paradoxe et vraiment quelque chose d'absolument insupportable. Après, on s'étonne qu'elle se fasse huer. Mais non.
Elle a dit au sujet
du voile... Elle a un double discours, en fait.
Elle a dit au sujet du voile que c'était en France un embellissement. Elle a utilisé le terme d'embellissement. Aujourd'hui, on voit des femmes qui se sont tirées dessus parce qu'elles l'enlèvent en Iran. Donc évidemment, ça ne peut pas résister. Et honnêtement, on peut le dire, mais c'est insupportable, de l'entendre utiliser l'argument de « c'est parce que je suis une femme que j'ai été critiquée ». Non, c'est parce que tu dis n'importe quoi, en fait. C'est tout.
Mais la vérité n'a aucune, et les faits n'ont aucune importance pour elle. Simplement, à un moment donné, à force
de... C'est le principe de l'idéologie.
À force de le faire réel que l'idéologie, pas. On finit par se heurter... au réel. Et là, qu'est-ce qu'elle a devant elle? Des gens qu'elle a plus ou moins insultés les mois et les semaines précédentes en disant bah, finalement, ce voile, c'est pas grand-chose, n'en faites pas un plat. Et elle vient en plus après faire croire qu'elle leur porte-parole. Ça peut pas passer.
Qu'elle réussit à faire parler d'elle.
Je vous invite.
Elle fait les couvertures des magazines. Oui, mais là aussi, on lui donne une caisse de résonance absolument vraisemblable.
Je vous invite à lire l'excellent papier de Jacques Julliard ce matin dans le Figaro qui parle de Sandrine Rousseau.
Mais ce n'est pas la première fois quand Sandrine Rousseau est en difficulté, et ça arrive à tout un chacun dans une vie politique de l'être. Je me souviens sur la primaire écologiste, inventé un moment difficile avec Éric Piolle qui l'aurait bousculé. Cette bousculade n'a jamais existé. Mais ça lui avait permis de faire un salto arrière pour après réenclencher une séquence qui lui aurait été plus favorable.
Mais là, il faut dire les choses comme elles sont. Moi, je veux bien qu'on monte la vidéo.
Sauf qu'on est, bien sûr, sur une actualité zapping, mais en fait, il y a des personnes qui relient des faits les uns aux autres. Et ça commence à dessiner autour de Sandrine Rousseau quelque chose qui commence à être un peu préoccupant.
Et elle se soucie, de la cause des femmes comme je ne vais pas utiliser l'expression, mais elle n'a rien à faire. Parce que la semaine dernière, quand Elisabeth Badinter est allée dire sur France Inter également ce qu'elle pensait de tout ce combat, etc., elle s'est fait lyncher par les amis de Sandrine Rousseau.
Mais vous avez raison. Pour moi, c'est un marqueur ce qui s'est passé la semaine dernière. Qu'Elisabeth Badinter, avec son parcours, sa hauteur de vue, soit lynchée par Najat Vallaud-Belkacem, par...
Mathilde Panot,
Sandrine Rousseau. Pour moi, c'est un marqueur.
Et le fait qu'elle soit une femme,
c'est-à-dire que la haute intelligence d'Elisabeth Badinter aujourd'hui, et c'est comme Marcel Gauchet qui avait pris la parole, il ne parlera plus après. Ouais. Parce que tu te fais agonir par ces gens-là. Donc c'est
comme
assez...
Comme Foucault, il y a quelques mois, quelques années.
Mais c'est les mêmes, effectivement, c'est les mêmes... stratégie. On va parler de l'Iran, si vous le voulez bien, et notamment d'Emmanuel Macron aussi. Comme vous le savez, de violents incidents se sont produits dans la nuit de dimanche à lundi dans l'université de technologie de Sharif à Téhéran. C'est vraiment le summum, cette université. C'est l'équivalent de Polytechnique. La police anti-émeute a tiré des billes d'acier et des gaz lacrymogènes contre les étudiants qui scandaient « Femmes, vie, liberté ». Mais aux yeux du guide suprême, la police est obligée de tenir tête aux criminels et d'assurer la sécurité de la société. Alors, ce qui est intéressant dans le domaine, dans ce dossier iranien, c'est que les Occidentaux ne parlent pas. Et la France ne parle pas. Oui. Donc, je veux bien qu'on donne des leçons de morale sur le conflit Russe-Ukraine, mais là, manifestement, ça ne nous concerne pas. Et on ne nous concerne pas, ça ne nous concerne pas peut-être parce qu'on a des intérêts financiers. Et puis, il y a une photo qui fait polémique. Le 20 septembre, en marge de l'Assemblée générale des Nations Unies, Emmanuel Macron a rencontré le président iranien Ebrahim Raisi. Et à la suite de cet entretien, la photo de leur poignée de main avait fait la une des journaux pro-gouvernementaux en Iran. C'est-à-dire que cette photo, elle, effectivement, on en parle assez peu en France, mais Emmanuel Macron, alors je ne sais pas s'il était piégé, pas piégé, s'il était content, pas content, là, manifestement,
il ne sourit pas. Il y a les deux drapeaux.
Manifestement, derrière, il ne sourit pas, les conditions, mais... Ça passe très, très mal en Iran.
Dans ces cas-là, on ne pose pas, on ne regarde pas le photographe.
Bah, écoutez, effectivement... Que Emmanuel Macron serre la main d'Ebrahim Raisi. Alors c'est vrai en même temps qu'il faut peut-être serrer la main de tout le monde.
Mais il y a une façon de faire. Vous n'êtes pas obligé de regarder le photographe dans le blanc des yeux. Vous pouvez regarder à côté vos...
En tout cas, cette photo, qui a été en marge de l'Assemblée générale des Nations Unies, elle fait parler.
Non mais attendez, moi je ne vais pas défendre Macron, mais... Je pense que c'est normal que le président de la République française serre la main en marge de l'ONU au président iranien. Je trouve ça normal. Tout comme je trouvais ça normal que, à l'époque où tout le monde montait sur ses grands chevaux, Sarkozy reçoive Kadhafi, même si ça s'est terminé comme on sait, ou Bachar el-Assad, même si ça s'est terminé comme on sait. En fait, pour moi, le vrai coupable dans l'histoire, c'est à l'époque Ramayad qui dit « Ah non, sans moi, je ne le ferai pas », etc. Et aussi Emmanuel Macron, quand il fait des leçons morales sur des sujets, et pas sur d'autres, en fait. C'est toujours pareil.
C'est
l'incohérence.
Ça,
donc, vous avez dit la Russie, vous avez raison.
C'est ça qui m'ennuie.
L'Azerbaïdjan, c'est pareil.
Est-ce qu'on a la même photo avec Liz Truss, avec Olaf Scholz, avec le président Biden? Est-ce que les alter-ego occidentaux d'Emmanuel Macron ont serré la main de cette façon?
Regardez le newspaper en Iran. Regardez ces journaux que Benjamin No a pu... Alors, ces journaux, évidemment, en Iran, ces photos ont été particulièrement mises en avant.
Moi, je crois que derrière cette photo, il y a surtout la question du nucléaire iranien. C'est comme ça qu'il faut décoder. Continuons à entretenir des relations minimum diplomatiques avec l'Iran parce que se pose la question du nucléaire. À un moment où on menace de guerre nucléaire en Russie.
Alors, toujours sur ce dossier, une image bouleversante, c'est la fille d'une des victimes des protestations en Iran, Minou Majdi, qui s'est rendue sur la tombe de sa mère, la tête rasée, ses cheveux dans la main. Et c'est hashtag Masha Amini, puisque c'est, comme vous le savez, elle, le départ de la mort de cette jeune femme, Masha Amini, qui a déclenché un large mouvement de contestation anti-gouvernementale en Iran. Je voulais vous citer également ce qu'ont dit les gouvernements, en tout cas l'ayatollah, qui a clairement dit que c'était les USA qui étaient responsables de ce qui se passait. C'est assez voilà. Je dis clairement que ces émeutes et l'insécurité sont l'œuvre des États-Unis, du régime sioniste Israël, usurpateur, leurs mercenaires et certains membres iraniens traîtres qui les ont aidés à étranger. C'est Ali Khamenei.
Ça fait 30 ans qu'il dit la même chose.
Bien sûr. Et il y a une séquence vraiment qui ça fait plusieurs fois qu'on la montre, mais je voulais vous la remontrer. C'est cette jeune femme qui chante Bella Ciao, qui est sublime avec une voix absolument sublime.
Iranien.
Voyons, écoutons-la quelques secondes.
صدای ما بلا چاو بلا چاو بلا چاو 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 میپریم از خواب یه شب مهتاب یکی میگه آی آدم ها یا همه با هم یا همه تنها ما که بیداریم تا فردا خاک این گندم.
Julien Drey me disait, qui est évidemment dans l'équipe de CNews, il me disait, vous devriez terminer toutes vos émissions par cette chanson. C'est vrai que...
Ça nous a pris au triple. Hein,
c'est vrai que c'est, moi, ça fait plusieurs fois que nous pensons cet extrait. En plus, il y a une voix sublime.
Quel courage, ces femmes.
Bien sûr, bien sûr. Retour en France avec deux infos que je voulais vous donner d'abord, et ce n'est pas une surprise. La mairie de Paris vient de décider de...
De quoi ?
D'augmenter les impôts ?
Non.
De supprimer de encore les espaces pour les voitures.
Non,
de
supprimer les écrans géants pendant la prochaine Coupe du Monde à Paris. Après Lille, après Bordeaux, après Reims, après
Strasbourg. Ils sont au courant que le PSG, ça appartient au Qatar. On vous leur avait dit ou pas? Il faut peut-être les éclairer un petit peu.
Non, c'est Anne Hidalgo, mais bon.
Mais il faut dire à Anne Hidalgo que le monsieur à qui elle sert la main au Parc des Princes tous les dimanches.
Le Paris Saint-Germain appartient au Qatar. Voilà, juste, donc, bientôt, on n'aura plus le droit d'aller au Parc des Princes pour voir jouer le PSG.
La position de Franck Leboeuf, je ne sais pas si vous l'avez vu.
Non.
Il ne comprend pas ses réactions, puisqu'il semblerait qu'au mois de novembre, la température soit de l'ordre de 24 à 25 degrés, et qu'il n'y aura pas besoin de faire marcher de la climatisation, semble-t-il.
Oui, mais là, ce n'est pas pour des raisons écologiques. Ce qui est vrai...
Si, c'est ça la première des raisons.
Non, la raison, c'est la construction des stades, manière dont...
La construction des stades ?
Mais je n'ai pas terminé ma phrase. La façon dont ont été construits donc, ces stades, et notamment l'utilisation d'ouvriers étrangers au Qatar, qui ont été traités comme des esclaves...
Quelques morts, quand même.
Avec, on parle de 6000 morts.
Je prends un engagement, si vous voulez, avec vous ce soir, de publier la semaine prochaine un scoop dans Valeurs Actuelles sur le sujet Hidalgo Qatar, c'est de lui dire que la personne à qui elle serre la main un dimanche sur deux au Parc des Princes, le président du PSG, il est qatari. Jérôme est d'accord, on fait le truc ensemble. On publie tous les deux.
Mais c'est peut-être une mesure de sobriété énergétique.
Bêtise.
Parce que ces écrans, ça consomme.
Alors c'est ce qu'elle dira peut-être, mais de toute façon, cette affaire d'écran géant, le 1er décembre, quand il fait moins 10 dehors, je vois pas qui serait allé les voir. Les écrans géants, c'est festif, c'est l'été.
Et puis pas de rassemblement, pas de force de l'ordre. Vous allez voir qu'en fait, il y a une grosse
C'est-à-dire qu'en pleine nuit, je sais pas si en pleine nuit, aujourd'hui, dans le climat d'insécurité, t'as envie d'aller voir, par moins 12 degrés, un match dehors sur un écran géant, alors que tu peux le voir ou chez toi avec des amis ou dans un bar.
Rassurez-vous, la Terre se réchauffe, Pascal, donc il fera pas moins 12, il fera moins 8.
Il fera pas moins 12,
Tant qu'il n'y a pas de supporter anglais.
Bon, je pense que les écrans géants, je suis pas sûr que tout le monde se batte pour aller voir des matchs à 20h quand il dans le froid.
Il n'y a pas eu des Jeux Olympiques en Chine. Il n'y a pas eu des Jeux Olympiques en Russie. Si on commence à mener la politique au sport, c'est fini.
Ben, ça s'est fait parfois. Je vous rappelle que les Jeux Olympiques de 80, par exemple, les Américains n'étaient pas allés à Moscou. Donc ça a toujours existé.
Il y a un contexte particulier, oui, mais voilà, il faut tout arrêter.
Bon, autre sujet justement que je vous proposais, c'était juste une parenthèse parce que c'était tombé ce soir. Il nous reste 7 minutes. Je vais vous montrer le sujet de Jeanne Cancard qui va dans dans la lignée de ce qu'on disait en Iran, parce qu'en France, on se bat parfois pour que des femmes portent le voile. C'est assez étonnant. Certaines, en tout cas, se battent pour ça. Et je voulais vous montrer ce qui se passe à l'école, puisque les remontées du terrain confirment une hausse des signalements d'atteinte à la laïcité à l'école depuis la rentrée, en particulier les signalements de port de vêtements comme les abayas qui semblent se multiplier. C'est en tout cas ce qu'a dit Pape Ndiaye vendredi. Mais que faire? Parce que ce n'est pas tant d'ailleurs des signes religieux, parfois, que simplement des signes culturels, une manière de vivre différemment. Voyons le sujet de Jeanne Cancard.
Devant différents lycées publics, comme celui-ci en Île-de-France, les mêmes scènes se répètent. Des élèves retirent leur voile pour entrer dans leur établissement, puis le remettent dès la fin des cours. Si dans les faits, la plupart respectent ce principe de laïcité, certaines tentent tout de même d'adapter leur tenue en milieu scolaire.
Soit je mets vraiment ma capuche, soit je mets mon bonnet et c'est tout.
On a le droit de mettre la capuche dans l'établissement ?
À l'intérieur, non. Mais je le fais quand même.
On essaye de mettre des longs pulls et des suites à capuche, comme ça on cache nos cheveux.
Il y a quelques jours, un rapport ministériel alertait sur la hausse du port des tenues religieuses à l'école. Sur les réseaux sociaux, des comptes encouragent les élèves à porter ces vêtements, marquant une appartenance religieuse. Des comptes très suivis par les jeunes.
C'est bien, moi j'aime bien. C'est des bons conseils.
Ces conseils, certains élèves tentent aussi de les suivre à l'extérieur de leur lycée, lors des sorties scolaires.
Si c'est obligatoire, je viens, mais en me couvrant le plus possible.
En dehors du voile, pour élèves et professeurs, le doute persiste autour de certains vêtements comme l'abaya, une robe longue répandue au Moyen-Orient.
C'est une abaya. Ils ont dit oui, j'ai pas le droit de porter cette robe-là. J'ai dit mais c'est comme une robe. Ils ont dit que je la porte plus, mais je l'ai quand même reportée parce que de toute façon c'est la même chose, c'est une robe.
Face à des tenues comme l'abaya, une partie des professeurs déplore un discours encore trop flou du ministère de l'Éducation nationale et attendent des directives plus claires.
Voilà ce qui peut effectivement exister dans les cours et qui peut, pourquoi pas, nous inquiéter.
Je rappelle que simplement le rapport de Jean Aubin, c'est ça ?
Jean-Pierre.
Il y a 20 ans.
Jean-Pierre Aubin, il remonte à 2004. Voilà, qu'est-ce qu'on a fait ?
Enterré par trois ministres de l'Éducation nationale successifs, tellement ils avaient peur et tellement ils ne croyaient pas.
Ces signes religieux à l'école.
Si vous nous suivez depuis la rentrée, vous connaissez ma petite formule, il faut changer de logiciel. Rien ne marche.
Mais qu'est-ce que vous faites dans ce cas-là ? Moi, je sais.
Eh ben moi, j'ai
une solution, c'est révolution. On remet l'uniforme primaire, national, garçon et fille.
C'est fini demain matin. Ouais. Ça s'appelle changer de logiciel.
Vous avez dit un truc, Pascal, tout à l'heure, vous avez dit, on ne sait pas si c'est culturel ou religieux. Eh ben, je pense que c'est culturel. Et l'interdire pour des questions de religion, on se lance dans des débats interminables sur la laïcité, doit-on ou pas tolérer. Alors qu'au nom de la culture française, désolé, c'est pas l'islam, c'est pas le voile. Donc c'est terminé.
Bon, il nous reste 4 minutes. Deux choses. D'abord, je voudrais saluer tous les juifs français qui sont en train de nous regarder. Parce que demain, ils ne seront pas dans leur poste. Parce que Kippour aura commencé. Et Kippour commence à la tombée de la nuit. Donc demain, ils ne seront pas devant l'heure des pros. Et tout le mercredi également. Je ne sais pas s'ils nous regardent beaucoup. Mais c'est très intéressant, Kippour. Qu'est-ce qui va se passer à partir de demain ? Tous les juifs français vont rester chez eux. Ils ne vont pas toucher à l'électricité.
Pas répondre au téléphone.
Ils ne vont pas répondre au téléphone. Ils ne vont rien faire. Et c'est intéressant d'écouter comment se prépare dans ces cas-là Kippour. C'est-à-dire que tu n'as pas le droit de toucher à l'électricité, mais ça ne veut pas dire que tu dois vivre dans le noir. Donc tu laisses, par exemple, la salle de bain allumée. Tu laisses pendant 24 heures. Tu laisses les pièces que tu veux laisser allumées pour vivre ces 24 heures. Et tous les juifs français vont se réunir en famille. Et puis, ils vont aller jusqu'à la synagogue mercredi soir pour la fin de Kippour. Donc, les juifs français, on peut les saluer, avoir une pensée à eux pendant ces 24 heures. Et l'autre chose que je voulais vous dire, c'est Bernard Tapie. parce que d'ailleurs, on recevra demain Laurent Tapie, qui sera sur ce plateau, qui a des choses à nous dire, comment il a peut-être vécu cette année douloureuse pour lui. Et puis c'est vrai qu'on attend que Marseille fasse des choses pour Bernard Tapie. Et manifestement, un an plus tard, Marseille n'a toujours rien fait. Mais sur le compte Instagram de Sophie Tapie aujourd'hui, il y avait cette petite séquence. Et je voulais vous faire écouter cette petite séquence de la fille de Bernard Tapie qui a mis cela en hommage à son père. Ça me fait plaisir de voir Bernard Tapie dans cette image au fait de sa gloire, beau, jeune. Alors là, il n'est pas chanteur, là. Il est déjà homme d'affaires, mais il refait une émission, je crois que c'était pour Le Jeu de la Vérité avec Patrick Sabatier, mais je ne suis pas sûr, et qu'il avait chanté cette chanson et qui est restée... qui est un peu aussi une chanson qui lui ressemble. C'est-à-dire que j'aurais voulu être un artiste. Alors qu'il était...
C'est une des chansons les plus dures à chanter du répertoire français.
Et cette année, je comprends que les Marseillais ne lui rendent... veuillent parfois oublier, quoi. Les dirigeants de Marseille veulent oublier le passage de Bernard Tapie, parce qu'ils font moins bien que lui, quand même. Admettons.
Marseille est deuxième. Hein,
là, oui, mais bon, ça fait... là, cette année, on va célébrer les 30 ans.
Oui.
À jamais les premiers.
Les premiers.
Cette année, les 30 ans, c'était le 26 mai. 1993 à Munich avec un but de Basile Boli.
Tête de Basile Boli.
Regardez la photo, voilà, Bernard Tapie un an déjà, à jamais le boss, et Laurent Tapie était sur la tombe de son père ce matin où il y avait beaucoup de supporters qui étaient présents pour la mémoire de Bernard Tapie. Déjà un an, j'ai envie de dire, comme le temps passe vite. Olivier Benkemoun est avec nous, cher Olivier. Vous allez nous demander le programme de ce soir. Bonsoir.
Moi, j'attends. Regardez, il faut que je monte sur la marche, sinon on ne va pas. J'attends. Hop là. Et en plus, ça bouge.
Vous n'avez pas de col roulé ?
Non, pas ce soir. J'attends le moment où vous allez chanter, quand même, Pascal.
Pourquoi vous voulez
que je chante ? Parce que, comme Bernard Tapie, les gens ne savent pas à quel point vous savez chanter.
On a chanté ensemble un jour, Bernard Tapie et moi, dans un magasin.
Moi, je sais que vous aimez chanter.
C'est mal fini.
Ça s'est mal fini. Les réseaux sociaux me le rappellent de temps en temps.
Bon, ce soir, au programme, évidemment, il y a toute l'actualité, le meilleur. Mais il y a notamment cette punchline qui est peut-être la meilleure de la journée, qui a dit Sandrine Rousseau et Robespierre avec du rouge à lèvres. Et vous le saurez tout à l'heure.
Oh, ça va être sexiste. À mon avis, celui qui a dit ça, il va pas passer une bonne soirée, peut-être. Bon, merci en tout cas. Merci à Mathieu Sibyl Prola, qui est là, même si le stade de Reims est en difficulté ces temps-ci, lui qui est un supporter de Reims. Merci à Rémi qui était à la vision. Merci à Philippe qui était au son. Benjamin No, Léo Marcheguet et Saïd Amda. Merci. On se retrouve demain matin, bien évidemment. Et l'ami Benkemoun dans une seconde.